Technologie, science,
algorithme, simulation,
information, recherche,
géométrie,
modélisation,
mathématiques,
réseau,
informatique.
Sixième épisode de podcast, notre invité est Marc Schonauer, directeur de recherche à l'INRIA Saclay-Île-de-France et co-responsable de l'équipe projet TAO qui travaille sur les problématiques d'apprentissage et d'optimisation. Marc Schonauer, bonjour.
Bonjour.
Avec vous aujourd'hui, nous allons donc parler des algorithmes évolutionnaires qui s'inspirent de la théorie d'évolution pour résoudre des problèmes complexes. En sciences de la vie, on voit bien ce que ça peut vouloir dire, mais en informatique, comment cela se passe-t-il ?
L'idée de base, c'est qu'on va faire évoluer dans l'ordinateur des solutions possibles aux problèmes qu'on s'est posés, suivant un schéma calqué sur l'évolution des populations biologiques selon les principes grossièrement inspirés donc de la théorie darwinienne. Supposons que nous cherchions à optimiser la forme d'une aile d'avion. Nous allons donc commencer par générer des formes d'ailes d'avion de manière aléatoire. Ainsi, on prendra une forme et on lui fera subir une mutation. Ça donnera donc une autre forme qu'on va appeler l'enfant de la première. On pourra également prendre deux ou plus de ces formes possibles et les mélanger d'une certaine manière, les recombiner pour obtenir, encore une fois, un ou plusieurs enfants de ces formes qui comporteront des caractéristiques de chacune des formes parents qu'on aura utilisées. Donc ça, c'est la partie qui, dans la théorie darwinienne, s'appelle les variations aveugles. Et le deuxième ingrédient essentiel de la théorie darwinienne, en tout cas, c'est la sélection naturelle. Alors, la sélection, évidemment, ici, n'est pas naturelle, puisque c'est nous qui allons décider de la sélection. Mais imaginez donc maintenant que vous avez généré toutes ces formes. Il y a les parents, les enfants, donc des formes diverses, plus ou moins aléatoires. Eh bien, ces formes vont être confrontées aux problèmes qu'on cherche à résoudre, par exemple avoir la meilleure portance pour l'avion qu'on est en train de concevoir, et on va garder les formes qui donnent à l'avion la meilleure portance parmi les autres. Évidemment, lorsqu'on prend des formes au hasard, la portance sera sans doute pas terrible, même pour les meilleures, mais certaines seront meilleures que d'autres. Et donc celles-là, on va les garder, on va jeter les autres, et on va recommencer le processus. Et à chaque étape, on a donc cette succession de opération de variation, donc croisement et mutation, ou recombinaison et mutation, et opération de sélection, où on garde les meilleures formes par rapport au problème fixé ici, par exemple, la meilleure portance.
On a commencé à parler des algorithmes évolutionnaires dans les années 60. Est-on toujours à la traîne en France ?
Bon, à la traîne, c'est peut-être excessif, mais disons que peut-être qu'on pourrait dire que les algorithmes évolutionnaires ne sont pas très bien perçus dans le pays inventeur du cartésianisme. Mais on a vu ça dans d'autres domaines aussi, mais il y a un petit peu le fait, par exemple, que les résultats théoriques sur les algorithmes évolutionnaires sont, eux, à la traîne, et ce n'est pas en France, c'est au niveau mondial, sont largement à la traîne par rapport aux applications. Il y a énormément d'applications où les algorithmes évolutionnaires rencontrent un succès, enfin, ils réussissent à optimiser des choses bien mieux que les algorithmes plus classiques. Par contre, au niveau théorique, on est aujourd'hui au béaba, c'est-à-dire qu'on est capable de montrer des résultats de convergence en probabilité, mais sur des fonctions très très simples pour lesquelles on n'a pas besoin d'algorithmes évolutionnaires pour les résoudre. Et donc ça cause effectivement du tort à ces algorithmes, en ce sens qu'un industriel qui voudra utiliser un algorithme d'optimisation et qui voudra une certitude d'obtenir des résultats ne l'aura pas et donc risque de préférer un algorithme peut-être moins performant.
Quel type de problèmes peuvent résoudre ces algorithmes ?
La force des algorithmes évolutionnaires, c'est d'être capable éventuellement de trouver des solutions si la fonction qu'on cherche à optimiser a de très nombreuses solutions locales, des optima locaux, c'est-à-dire des solutions qui sont meilleures que toutes les solutions dans leur voisinage, mais pas forcément les meilleures sur l'ensemble de l'espace. Un autre type de problème donc, pour lesquels les algorithmes évolutionnaires peuvent apporter des solutions innovantes, donc c'est le domaine, je dirais, de l'optimisation combinatoire. Donc, l'optimisation combinatoire, c'est tout ce qui concerne, par exemple, les problèmes d'emploi du temps, les problèmes d'horaire. J'ai eu l'occasion de travailler, par exemple, sur des problèmes d'horaire de train, où typiquement, donc l'horaire de train est déterminé une fois pour toutes hein, par la SNCF, longtemps avant le départ des trains eux-mêmes. Par contre, le jour J, Des incidents arrivent inévitablement, un train part avec 3 minutes de retard, ou il y a un incident sur la voie, etc. Et donc là, il faut recalculer les horaires de l'ensemble des trains du réseau, qui ne sont pas encore partis. Lorsque l'incident, je dirais, qui déclenche la mise en route de l'algorithme, est un incident de petite importance, quelques secondes, quelques dizaines de secondes pour un train qui est en retard. Là, il existe des algorithmes, enfin presque du commerce, le logiciel Simplex par exemple, qui résout très bien ce genre de problème, donc qui réordonne les trains, qui réagence les trains et trouve la meilleure solution. On sait en plus qu'elle est optimale, donc il n'y a aucun problème. Par contre, lorsque l'incident est plus important, là, il ne suffit plus de décaler les trains de quelques millisecondes, quelques minutes, il faut aussi éventuellement inverser des trains. Et là, ça pose des problèmes de complexité qu'on appelle exponentielle, c'est-à-dire que suivant le nombre de trains, le temps mis à calculer la solution optimale va croître de manière démesurée.
Mais je croyais justement que l'un des inconvénients des algorithmes évolutionnaires, c'était des temps de calcul très longs.
Oui, tout à fait. Cependant, cet inconvénient, je dirais, n'est pas suffisant ici, si je puis dire, pour faire que les avantages disparaissent. Et le calcul étant ici suffisamment rapide, rien à voir avec un calcul de portance pour une aile d'avion. Et donc on a effectivement le temps d'en faire suffisamment pendant les 10 minutes, où évidemment il faut réagir vite puisque l'incident vient d'arriver, il ne s'agit pas de donner la solution 2 heures après.
Vous avez collaboré aussi avec des architectes, designers sur la création de chaises qui ont pu être fabriquées à partir d'algorithmes évolutionnaires. Comment deux univers si différents peuvent-ils se rencontrer ?
En fait, c'est Philippe Morel du cabinet EZCT qui un jour m'a contacté en disant « J'ai vu ce que vous faites en optimisation de forme et je voudrais discuter avec vous ». Il a voulu voir si, en tant qu'architecte, il ne pouvait pas utiliser ça pour apporter donc de l'innovation au niveau conception en architecture. Et donc, il est venu voir, nous avons discuté un petit moment, et à un moment, il m'a dit, bon, je voudrais faire quelque chose avec ça. Comme je ne sais pas encore exactement à quoi ça peut servir, on va faire ce que font tous les étudiants de première année d'architecture, des chaises. Et donc, on a fait évoluer des formes de chaises pour qu'elles soient légères, en étant suffisamment solides pour supporter un homme de 80 kg dans plusieurs positions. Donc, ça a duré 3 ou 4 mois, donc les calculs ont donné quelques résultats. Et j'avoue que personnellement, je pensais que l'histoire allait s'en arrêter là. Et puis pas du tout, puisque donc Philippe Morel a trouvé les résultats tout à fait intéressants et visiblement, il n'a pas été le seul, puisqu'elles ont ensuite été exposées à une Archilab, une exposition à Orléans, où elles ont été remarquées par des gens du Musée d'Art Moderne de Beaubourg qui ont fini par les acheter donc à Philippe Morel et à moi-même. Pour la collection permanente de Beaubourg, elles ont donc été exposées donc, d'avril 2007 à octobre 2007, dans la collection permanente. Alors bon, je pense que ce qui intéresse les architectes et le musée d'art moderne, c'est plus la démarche que le résultat. Parce que si on regarde le résultat, bon, c'est pas des chaises très confortables, il faut bien le dire. Mais elles ont une forme qu'on peut qualifier d'intéressante, même sans connaître grand-chose au design de mobilier. Et donc là, on arrive à une illustration des applications des algorithmes évolutionnaires que je n'ai pas encore mentionné, et qui est la notion d'évolution ouverte. C'est-à-dire qu'en fait, on explore plus qu'on optimise. Le fait de pouvoir manipuler des représentations un peu baroques permet de trouver ici, dans l'occurrence, des formes de chaises qu'on n'aurait probablement jamais trouvées autrement en utilisant les fonctions spleen ou les logiciels de conception assistée par ordinateur du commerce. Ils fonctionnent tous avec les mêmes représentations. Je vais citer les fonctions spin, donc une manière de représenter des surfaces très classiques, mais qui ne permet pas d'obtenir les mêmes formes. Et donc c'est vraiment cette dimension plus d'exploration que d'optimisation qu'on peut ici mettre en avant et qui ont fait donc le succès de ces chaises, de notre collaboration.
Merci Marc Schonauer d'avoir accepté notre invitation. Ce podcast sur les algorithmes évolutionnaires est maintenant terminé. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas l'informatique à portée de clic sur Interstice.